Vous voyez le titre ? Je suis sûr que vous connaissez très bien ce livre, le livre d'Agé. Alors j'espère qu'on pourra le parcourir ensemble et apprendre quelque chose de plus. Et j'espère que Dieu pourra encore nous parler ce matin. Avant de commencer la lecture, je voudrais juste faire un rappel historique. En 721, avant Jésus-Christ bien sûr, on a eu la déportation du royaume du Nord en Assyrie. Vers 610, on a le prophète Jérémie, vous voyez le gros livre de 52 chapitres dans vos Bibles. Lui, il a prophétisé la déportation du royaume du Sud, du royaume de Juda, en Babylone, pendant 70 ans, parce que le peuple adorait d'autres dieux, parce que le peuple avait une culture de la justice qui était différente de celle de Dieu. Et le peuple est parti en déportation. Donc on a une première vague de déportation en 597. Donc ça, c'était plutôt les notables de la ville, les chefs religieux, si je pourrais dire comme ça. Et en 587, on a eu la deuxième vague de déportation. Là, on dira tout le reste du peuple de Juda. Bon, il restait encore quelques personnes en Judée, mais c'était des gens qui n'avaient pas beaucoup d'influence. Et en 538, on a le retour des Judéens, un peu comme le retour du Jai, mais là, c'est les Judéens. Ils reviennent dans leur territoire. C'est les Perses qui ont pris le pouvoir sur Babylone. Et du coup, le roi perse, qui s'appelait Cyrus, il a reçu une parole de l'Éternel qui lui disait de libérer le peuple pour qu'ils aillent retourner à leur pays et qu'ils reconstruisent le temple. Ça, c'est dans Esdras qu'on peut lire ça. Et là, on a 43 000 judéens qui reviennent, allez, 42 360, d'après Esdras, qui reviennent en Judée. Je vous propose la lecture de ce texte. Donc là, on était en 538, quand Cyrus avait déclaré la reconstruction du temple. Entre-temps, ils ont commencé. Il y a les adversaires des judéens qui ont été voir les politiques de l'époque pour faire arrêter la construction du temple. La construction du temple s'arrête. Et on arrive en 520 sur Agé 1, et où on a Agé, justement, avec son pote Zacharie, qui sont de la même époque, hein, qui vont plutôt prophétiser dans le sens de la reconstruction du temple. Donc je vous propose la lecture de Agé, chapitre 1. La deuxième année du roi Darius, le sixième mois, le premier jour du mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé à Zorobabel, fils de Shéasiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est en ruine ? Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Vous avez beaucoup semé et vous rapporte peu. Vous mangez sans être rassasié. Vous buvez, mais pas à votre soif. Vous êtes vêtu sans avoir chaud. Le salarié reçoit son salaire dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Réfléchissez à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup. Et voici que vous avez eu peu. Vous l'avez rapporté à la maison. Mais j'ai soufflé dessus. À cause de quoi, oracle de l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est en ruine, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi le ciel vous a retenu la rosée, et la terre a retenu ce produit. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur ce que produit le sol, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de tes mains. Zorobabel, fils de Shéasiel, Josué, fils de Yehotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple obéirent à la voix de l'Éternel, leur Dieu, d'après les paroles du prophète Agé, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, messager de l'Éternel, dit au peuple, conformément au message de l'Éternel, Moi, je suis avec vous, oracle de l'Éternel. L'Éternel éveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Yehosadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout ce qui le reste du peuple. Ils vinrent se mettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du roi Darius. Le prophète Agé va parler en réponse à la problématique qui était posée au verset 2. Ce peuple dit « Le temps n'est pas encore venu, le temps où la maison de l'Éternel doit être rebâtie. » La prophétie, ça va en réponse à cette problématique. Je vous propose de comprendre cette prophétie en trois étapes. Dans un premier temps, on va voir Dieu qui interpelle son peuple, qui fait un constat, et on voit ça des versets 4 à 7 et 9 à 11. Ensuite, on verra que Dieu propose une solution en plein milieu de ces constatations au verset 8. Et enfin, on verra Dieu qui accompagne son peuple des versets 12 à 15. Je disais que le discours de Dieu commence par une question qui reprend la situation au verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est en ruine ? Dans ce constat de verset 4, des versets 5b à 7b, je dirais, ils finissent par la même formule. Ainsi, par l'Éternel des armées, réfléchissez à votre conduite. Et entre ces deux formules, il va décliner ce qui se passe. Premièrement, il sème beaucoup, mais il récolte peu. Deuxièmement, il mange, mais sans être rassasié. Après, ils boivent, mais ils ont encore soif. Ils sont habillés, mais ils ont encore froid. Ils reçoivent leur salaire, mais ils n'ont pas encore assez d'argent, je dirais. Je traduirai comme ça. Le peuple n'est pas satisfait parce qu'il a dans ses fonctions vitales. Et pourtant, ils ont des demeures lambrissées. Alors, cette diapo, je reviendrai après, hein. Du coup, comme les Judéens ont oublié Dieu et ont oublié le temple, ce qui est au verset 9, s'ils ne sont pas rassasiés, c'est à cause que le temple est en ruine. Dieu a stoppé ses bénédictions à l'égard du peuple, donc le ciel a retenu la rosée, comme on a pu dire, la terre a retenu les produits. Il y a une sécheresse. Si Dieu a retenu ses bénédictions, c'est pas parce que c'est un Dieu qui est cruel. C'est parce que Dieu a voulu faire comprendre au peuple que tout ce qui arrive, arrive grâce à lui. Et tout dépend de lui. Même la pluie qui tombe, nous dira l'évangile de Matthieu. Le soleil, ça dépend de Dieu. Que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. Et donc, si Dieu veut arrêter, il a tout à fait les droits, c'est pas de la cruelité. C'est pas cruel. On dira comme ça, c'est pas cruel. C'est pourquoi il va leur dire, réfléchissez à votre conduite. Et c'est là qu'on voit notre cher ami qui regarde pas devant lui quand il conduit, qui regarde n'importe où, il réfléchit pas, il roule sans réfléchir. Dieu nous appelle à réfléchir. Dans la Bible, on a souvent la formule, souviens-toi. Souvenez-vous, observe, réfléchissez. Rien que ces mots, en faisant une recherche brutale, dans la Bible, ils sont à peu près 110 fois. L'auteur de l'Épître aux Hébreux appelle à se souvenir, il va nous parler dans le chapitre 11, de la foi d'Enoch, de Noé, d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, d'Abel, de Joseph, de Moïse, de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et d'autres prophètes. Et pourtant, c'est des personnes qui sont extrêmement éloignées, du moins assez éloigné de l'auteur quand il l'écrit. On a aussi l'apôtre Pierre qui va parler des prophètes, donc les prophètes de l'Ancien Testament, qui ont voulu connaître quand est-ce que le Christ allait arriver. Dans le livre des Actes, on a aussi l'auteur qui reprend une parole de Dieu quand Dieu parle à Moïse, où il dira « C'est moi le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Mais alors, pourquoi on évoque le souvenir? Pourquoi est-ce important le souvenir? Ésaïe, aussi, avait prophétisé la reconstruction du temple avant même que le temple soit détruit. Vous voyez, c'est un peu bizarre quand même, hein? Le temple n'est pas encore détruit, qui prophétise déjà que le temple sera reconstruit. Dans le but, en tout cas, l'un des buts de prophétiser est que quand la chose arrivera, nous pouvons nous rappeler ce que Dieu avait dit et que Dieu avait été fidèle dans ce qu'il avait dit. Et avez-vous déjà vu une boutique souvenir en vacances? C'est cela. Vous voyez souvent dans les boutiques souvenirs des super porte-clés souvenirs, des t-shirts souvenirs, des verres souvenirs, des tire-bouchons souvenirs pour d'autres amateurs. Et souvenir, ce n'est pas forcément le nom de famille des objets, c'est la symbolique que l'on place derrière les objets. Et souvent, grâce à ces souvenirs, grâce à cette photo des chèvres que j'ai vues en robe qui étaient sur les plaines du Larzac, je me souviendrai toujours de leur beauté extraordinaire. Donc cette photo me permettra de me souvenir ce qu'étaient ces chèvres et ce qu'était la beauté de la nature. L'Ecclésiaste, un super livre aussi, il dira « Jeune homme, réjouis-toi dans ton adolescence, que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fera plaisir. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu as fait. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. » Là, il nous rappelle aussi à se souvenir, d'observer. Nous sommes en 520, 18 ans après le retour de l'exil, 18 ans après que Cyrus ait écrit un édit pour la reconstruction du temple, où l'Éternel a parlé pour que le temple soit reconstruit. Et ils ont oublié. On pourrait dire, mais comment ils sont bêtes? Ils sont bêtes, ils oublient si rapidement qu'ils étaient partis 70 ans en exil et que là, ils ont déjà oublié que le temple doit être reconstruit. Dans Paul, aux Corinthiens, quand il a parlé de la Sainte Cène, de l'Eucharistie, il va dire « Car voici la tradition que j'ai reçue. » Donc il y a une histoire et un souvenir. Et à la fin de ce verset, il dira « Faites ceci en souvenir de moi. » Donc là, Paul, quand il reprend les paroles de Jésus, appelle à se souvenir de quelque chose qui est assez fondamental quand même. La mort du Christ et sa résurrection. C'est pour se souvenir que Christ est mort et que nous sommes déclarés justes devant l'Éternel grâce à son sacrifice. Paul dira à son pasteur stagiaire Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il continuera encore aux Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité, il va faire tout un chapitre, alors notre foi est vaine. Les choses essentielles au christianisme, à notre foi, sont sans cesse répétées. Ils sont, Paul, Jésus, sont obligés, je dirais, de faire appel à notre souvenir pour que nous puissions rester ancrés sur la bonne doctrine, pour que nous puissions être assez orthodoxes. Le souvenir est utile pour avancer. Le souvenir que Dieu a été fidèle dans les choses, que Dieu est intègre et cohérent. Grâce à ce souvenir, nous pouvons être certains que l'espérance vers laquelle il nous appelle va arriver, que le jour où il viendra, nous saurons que c'est lui qui arrive. Et nous savons ce que nous a promis, il l'accomplira. Parce que nous avons regardé en arrière, nous sommes souvenus que ce qu'il a promis s'est réalisé. On pourrait se souvenir de ce que Dieu a fait pour nous cette semaine. Donc, d'un point de vue assez rapproché, dans l'instant, à chaud, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous cette semaine? On pourrait prendre un peu plus de recul et se dire qu'est-ce qu'il a fait depuis un mois. Et puis, regarder comme ça la fidélité de Dieu. Et puis, ça va nous pousser à adorer Dieu. Réfléchissez à votre conduite, nous dira Agé. Et, en plein milieu de ce constat, nous avons la solution que Dieu apporte au verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'y prendrai plaisir et je la glorifierai, dit l'Éternel. Ce verset est peut-être un peu bizarre. Il y a un impératif. Mais je dis que Dieu propose la solution. À la publicité, à la télé, vous voyez, pour être en forme, mangez 5 fruits et légumes. Ben là, c'est pareil. Pour être bien, pour bien vivre, bâtissez la maison, bâtissez le temple, montez sur la montagne. Donc c'est plutôt un impératif d'un père qui parle à son enfant. Dieu veut que ses enfants soient en relation avec lui, et du coup il va lui dire, ben, monte sur la montagne, bâtis la maison, et après tu verras, ça ira beaucoup mieux. C'est dans ce sens-là qu'on a l'impératif. Et à la fin, on a « J'y prendrai plaisir et je la glorifierai ». Ce verset est un peu bizarre. La traduction à la colombe, dite à la colombe, n'est pas pour moi la plus pertinente et la plus explicite qu'elle soit. Je trouve que la version Tob, qui nous dit « J'y trouverai plaisir et je manifesterai ma gloire », dit l'Éternel, bien sûr, est plus explicite parce que la présence de Dieu se manifeste dans le temple. Et s'il n'y a plus de temple, Dieu ne peut plus s'exprimer. Donc du coup, les Judéens doivent reconstruire le temple pour que Dieu puisse s'exprimer et manifester qui il est. Donc quand le temple sera reconstruit, Dieu pourra manifester sa gloire. Et il prendra plaisir à être en communion avec son peuple, en relation pardon, avec son peuple. C'est pour ça qu'il prend, il dit « J'y prendrai plaisir et je manifesterai ma gloire ». On voit encore dans ce verset qu'il est question de bois et qui fait écho au verset 4 où il parlait de maisons lambrissées. En fait, à ce moment-là, Dieu appelle le peuple à apporter non le bois pour leur maison, mais à apporter le bois pour la reconstruction du temple. Une fois qu'ils auront reconstruit le temple, après, ils pourraient reconstruire leur maison. Et si le temple est reconstruit, alors ils pourront être satisfaits de la vie. Donc ils pourront peut-être boire en étant rassasiés, enfin manger en étant rassasiés, boire sans avoir soif, être vêtus en ayant chaud. C'est pour ça que là, Dieu va leur dire, mais quelle est votre priorité ? Quelle est votre priorité ? Est-ce votre confort personnel ou est-ce votre relation avec moi ? Je vais juste faire un petit focus sur la place du temple dans l'Ancien Testament puis dans le Nouveau. Là, vous voyez le temple de Salomon. C'est bien ça. Le temple de Salomon. Et dans ce temple était le signe, je disais tout à l'heure, de la présence de Dieu. Dans ce temple, on trouvait l'Arche de l'Alliance qui, lui, comptait les deux tables de la loi et le bâton d'Aaron. Dans Exode, nous dit que l'Arche de l'Alliance, c'était l'endroit où on allait rencontrer Dieu. Avec le temps, l'Arche de l'Alliance n'était pas toujours bien considérée, ou du moins, il prenait l'Arche de l'Alliance un peu comme un objet magique, un gris-gris. Et ce qui fait que, dans le livre de Samuel, il y a le peuple qui combat face aux Philistins, et ils sont en train de perdre la bataille. Mais ils n'ont pas l'Arche avec eux, donc ils perdent. Et là, le peuple va dire, mais mince, on n'a pas l'Arche, qu'est-ce qui se passe ? Allons chercher l'Arche à Silo, et après on pourra battre ces Philistins. Ils vont chercher l'Arche à Silo, ils vont contre les Philistins, et ils perdent 30 000 hommes morts. Le prophète Jérémie, que j'aime beaucoup, lui, le peuple faisait un peu n'importe quoi, et après il venait au temple pour se faire pardonner. Alors, et après il recommençait, bien sûr, sinon c'est pas drôle, ça sert à rien de se faire pardonner si on recommence pas. C'est ce qu'il se disait, hein. Et là, le prophète Jérémie va leur dire, mais arrêtez, le temple c'est pas ça, c'est pas le temple, c'est pas une maison de brigands, si je reprends son expression. Donc quand Jérémie a prophétisé la destruction du temple, le peuple était perdu. Il se disait, comment on va se faire pardonner ? Dans le Nouveau Testament, après la mort de Jésus, il n'y a plus de temple. Jésus a dit « Je démolirai ce temple fait de main d'homme et en 3 jours, j'en reconstruirai un autre qui ne sera pas fait par des mains d'hommes. » Le temple que Jésus parle, en effet, n'est pas extérieur à l'homme, mais il est confondu. Je dirais pas intérieur, mais confondu. Pour faire les égalités, hein. C'est pas... Vous voyez les ensembles mathématiques. Le temple n'est pas dans l'homme, mais c'est l'homme qui est tout l'homme est le temple du Saint-Esprit, nous dira Paul. Et le temple du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous, dira Paul. Donc du coup, il y a vraiment une identification qu'on n'avait pas avant entre le temple et l'homme, du moins entre la présence de Dieu et dans l'homme. Jérémie, on reprend souvent Jérémie qui disait que Dieu inscrira la loi dans nos cœurs. La loi dans nos cœurs qui était symbolisée, la loi qui était dans l'arche d'alliance, de l'alliance, qui était la présence de Dieu, qui maintenant, Dieu, par sa présence qui est en nous, met en nous sa volonté, ce qu'il veut de nous. Tout à l'heure, on chantait quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Dieu prend plaisir quand nous le louons. Et il viendra prendre, il est encore plus content, j'y prendrai plaisir et je le glorifierai, dit l'Éternel. On a le même, c'est un peu le même parallèle. Donc nous sommes tout entiers pour l'Éternel. L'Éternel habite complètement en nous et du coup on ne doit pas faire des demi-mesures. C'est ce que ce texte nous apprend aussi sur la place du temple. Dieu interpelle, Dieu propose une solution et Dieu équipe des versets 12 à 14. Le peuple réagit positivement face à l'interpellation de Dieu. Ils se mettent à l'action, ils reconsidèrent le temple et continuent la construction. Le peuple est saisi d'une grande crainte. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, nous dira le proverbe ou un psaume. Mais pour avoir cette crainte, il faut avant tout se souvenir de qui est Dieu. C'est pour ça que quand vous voyez cet homme, bon, il a l'air juste un peu carré. Mais après, si je ne vous dis pas qui il est, vous n'avez pas plus peur que ça. Mais après, si je me suis renseigné un peu qui il était, il me fait un peu plus peur. Il fait du ultimate fighting. Et quand on voit certaines photos, on voit qu'il est complètement... qu'il se bat... Enfin, c'est des combats extrêmes qui sont interdits en France. Mais pour, voilà. Et maintenant, quand vous savez qui il est, si vous voyez dans la rue, vous n'aurez pas le même regard sur lui. On a à peu près... On peut faire le même parallèle avec Dieu. Sauf que Dieu n'est pas celui-là qui va nous taper. Hein. Dans le parallèle que... On craint l'Éternel parce qu'on se souvient de qui il est. On se souvient que c'est Dieu créateur. C'est l'Éternel des armées. Donc, qui est aussi bien l'Éternel pour le ciel et la terre. C'est pour ça qu'on peut craindre l'Éternel, parce qu'on le connaît. Et c'est pour ça qu'il est bon de se souvenir de qui est Dieu. Plus on apprend à connaître une personne, donc plus on apprend à connaître Dieu, plus on va l'apprécier à sa juste valeur. Plus on va constater... en se souvenant de ce qu'il a dit, qu'il a été fidèle. À l'issue de cette prise de conscience, le peuple va se mettre à reconstruire le temple. On a, au verset 13, on a Dieu qui dit « Moi, je suis avec vous. » Et après, il va éveiller l'esprit de Zorobabel, de Josué, de tout le peuple. Certaines traductions dira « L'Éternel anime d'un nouveau zèle. » Parce que éveiller l'esprit, ça peut être un peu... difficile un peu à comprendre dans l'Ancien Testament. Donc, Dieu va éveiller l'esprit, bien sûr, mais il va leur donner un nouveau zèle, il va leur donner une nouvelle, je dirais, passion, ou du moins de l'empressement pour la reconstruction du temple. Et c'est ça, dans ça que Dieu aide les gens, aide le peuple à reconstruire le temple. Il le pousse à agir. Il lui donne de l'empressement pour la construction. Le processus est simple. Au départ, on a vu que Dieu interpellait, appelle son peuple en évoquant le souvenir. Le peuple prend conscience, change sa façon de penser, et décide de se mettre à l'ouvrage. Ensuite, ou parallèlement, l'Éternel va équiper le peuple pour qu'il se mette à l'ouvrage. Donc on a Dieu qui interpelle, le peuple qui prend conscience, et Dieu qui équipe. On parlait tout à l'heure de l'Esprit qui habitait en nous. Dans le Nouveau Testament, il est dit que l'Esprit, c'est le Consolateur, qui sera avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, parce que la présence de Jésus n'était plus là. Donc Jésus a envoyé l'Esprit. Et donc nous n'avons plus besoin, je répète, du temple. L'Église locale est utile pour se rassembler. Et pour, justement, comme nous avons chacun l'Esprit, nous pouvons nous parler par l'intermédiaire de Dieu. Dieu peut me parler par Benjamin, par Luc, parce qu'ils ont l'Esprit. Donc, là, ce qui est proposé, on a vu tout à l'heure, c'est monter sur la montagne, réfléchissez à votre conduite et bâtissez le temple. Jésus, quand il parlait à ses disciples, c'était la même solution qu'il proposait. Il disait, venez à moi, je vous donnerai du repos. Là, on a exactement pareil. Venez construire le temple et vous pourrez bien vivre. Rien de nouveau entre Jésus et Agé, sauf que Jésus, il est différent d'Agé quand même. Je voudrais finir, moi aussi à mon tour, par des interpellations. La question est valable si vous êtes croyant ou non, chrétien ou non. Et c'est, quelle est la place de Dieu dans votre vie? Est-ce que vous dites comme les Judéens, comme le peuple de Juda, le temps n'est pas venu pour reconstruire le temple ou pour construire le temple? Autrement dit, j'ai encore le temps pour réfléchir à Dieu. Je pourrais réfléchir demain. Et puis je suis en bonne santé, je ne suis pas encore mort. Quelle est la place de Dieu dans ma vie? Quelle est, ou du moins, pour ceux, si vous êtes chrétien, est-ce que la maison de Dieu est en bonne santé, en bon état? Quelle est votre relation avec ce temple? Est-ce qu'il y a des fuites dans le toit ou pas? Quelles sont vos priorités? Est-ce que c'est plutôt le temple de Dieu qui habite en vous? Ou est-ce que c'est plutôt votre vie qui prime? Est-ce que c'est vos passions ou Dieu en premier? C'est les interpellations que nous donne ce texte. C'est pour ça que je terminerai avec le verset suivant. Réjouis-toi de ta jeunesse. Réjouis-toi de ce que tu vis. Mais souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi que tu n'es pas seul et que rien n'arrive sans Dieu. Souviens-toi que tu peux profiter de la vie, mais attention, Dieu est là, il veut te bénir. Alors, si tu veux te laisser bénir, laisse-le faire. Amen.